Deutsche Welle. Allemagne Magazine.
Guten Tag, bonjour à tous. Le 12 décembre 2012, le Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, pensait mettre un terme au vif débat sur la pratique de la circoncision en adoptant une loi qui autorise l'ablation du prépuce chez un enfant pour des motifs religieux. Mais un an plus tard, des voix s'élèvent toujours pour critiquer la nouvelle législation, estimant qu'elle néglige le bien-être de l'enfant. Nous reviendrons sur le sujet avant de nous intéresser au triste sort des femmes dans les camps de concentration sous les nazis. C'est Constance Wenkötze au micro. Merci d'être à l'écoute. Dans le judaïsme, elle est le signe de l'alliance du peuple juif avec Yahvé, nom du dieu des Hébreux dans l'Ancien Testament. Dans l'islam, elle est vue comme un rite de passage vers l'âge adulte. Ici et ailleurs, elle est également considérée comme un moyen d'améliorer l'hygiène et de prévenir des infections sexuellement transmissibles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la circoncision est l'une des plus anciennes interventions chirurgicales connues, réalisées pour des raisons religieuses, sociétales ou médicales. À l'été 2012, cependant, un tribunal de Cologne avait créé une polémique internationale en déclarant hors la loi et passible de poursuites pénales la circoncision des enfants pour motifs autres que thérapeutiques. C'est ce verdict-là qui a ensuite conduit l'Allemagne à se doter, au mois de décembre dernier, d'une loi en la matière. Entre ces deux dates, le débat a été vif, que ce soit au niveau médical, juridique ou sociétal. Doit-on autoriser la circoncision en l'absence de bénéfices médicaux ? Comment gérer les risques de complications dans le cas où elle n'est pas pratiquée à des fins thérapeutiques ? Un adulte a-t-il le droit de toucher à l'intégrité physique d'un mineur ? Comment garantir la liberté de religion, le droit des parents à l'éducation de leurs enfants et le bien-être de ces derniers ? C'est à toutes ces questions que le législateur a essayé de répondre, comme l'explique Wolfgang Gahr de la Société allemande de pédiatrie et de médecine des adolescents.
Quel était l'objectif de cette loi ? C'était de dire que s'il doit y avoir circoncision pour des raisons autres que médicales, ce que nous rejetons toujours sur le principe, alors il faut au moins qu'elle ait lieu sous la surveillance d'un médecin et sans douleur.
Depuis décembre 2012, les parents peuvent donc donner leur accord à la circoncision de leur garçon si l'opération respecte un cadre médical professionnel. L'acte chirurgical doit être réalisé par une personne formée et qualifiée, par exemple un médecin, qui se conforme à un traitement adapté et effectif de la douleur, ce qui déjà pose un problème puisque quelqu'un qui n'est pas médecin n'est en principe pas autorisé à faire une anesthésie. La loi stipule aussi que les parents doivent être au courant des possibles risques de l'opération. Enfin, dans le cas où l'enfant est suffisamment âgé, son avis sur la question doit être entendu et son bien-être doit de toute façon être respecté. À l'époque où la loi a été adoptée, les communautés juives et musulmanes s'étaient déclarées satisfaites. Christian Bals, lui, ne l'est pas. Il préside l'organisation MOGIS qui défend l'intégrité physique et le droit de l'enfant à l'autodétermination sexuelle.
Cela m'étonnerait que la loi change quelque chose à la façon dont est pratiquée la circoncision en Allemagne. Le texte est ainsi fait qu'il légalise les pratiques déjà existantes, y compris celles qui sont douteuses.
Et Christian Bals cite un cas à Berlin où la circoncision avait été effectuée selon un rite juif particulier, considéré, y compris en Israël, comme dangereux pour la santé. Mais il a eu beau porter plainte contre les parents et contre celui qui avait effectué l'opération, sans succès.
Le parquet de Berlin a indiqué très clairement que, pour calmer la douleur, il suffit de poser un pansement à effet antalgique. Autrement dit, les autorités allemandes ne se sentent pas tenues d'exiger qu'un enfant soit anesthésié lorsqu'il est circoncis.
Wolfgang Gahr de la Société allemande de pédiatrie et de médecine des adolescents dit lui aussi avoir entendu des histoires de circoncision sans anesthésie ou qui se déroulent dans des conditions d'hygiène qui laissent à désirer.
Oui, on nous rapporte encore des cas de circoncision où les règles élémentaires d'hygiène ne sont pas respectées et où la personne opérée souffre. Mais ce sont des cas isolés. Nous n'avons pas de chiffres.
Du côté des autorités, on réplique avec des contre-exemples. En septembre 2013, une mère originaire du Kenya s'est ainsi vue refuser le droit de circoncire son fils, le tribunal local estimant notamment que ce dernier n'avait pas été suffisamment informé par ses parents et par le médecin. La loi sur la circoncision avait été adoptée par la Chambre basse du Parlement allemand par 434 voix contre 100 et 46 abstentions, preuve qu'elle ne faisait pas l'unanimité non plus chez les députés. Direction Berlin à présent, et plus exactement le musée juif de Berlin, qui a décidé de s'attaquer à un sujet très souvent, trop souvent passé sous silence, celui des violences faites aux femmes, juives et non-juives, dans les camps de concentration sous le Troisième Reich, sous les nazis donc. Elles sont nombreuses à avoir subi des traitements particulièrement cruels, stérilisation, avortement forcé, coups et viols. Dans certains camps, des bâtiments avaient également été transformés en lieux de prostitution forcée. Le musée juif de Berlin a donc décidé de s'emparer de ce thème au travers d'une exposition intitulée « Alles hat seine Zeit »,« Chaque chose en son temps », une exposition qui tourne autour des rituels du souvenir. Notre correspondante sur place, Audrey Parmentier, l'a visitée.
À droite, vous avez des textes d'introduction.
Félicitas Heimann-Jelinek, commissaire de l'exposition.
Tous liés à un rituel du souvenir qui sont imprimés sur des tissus blancs. Et en face, sur des murs recouverts de satin bleu foncé, les photos de Quintan Anna Wixwoe.
Quintan Anna Wixwoe, une artiste américaine contemporaine, a travaillé pendant plusieurs années avec des femmes qui ont survécu à des guerres ou des conflits armés. C'est en recueillant le témoignage de certaines d'entre elles en 2007-2008 qu'elle a appris l'existence de bordels dans les camps de concentration nazis où les femmes étaient régulièrement violées.
Ces femmes, qui avaient 80 ans, étaient vraiment furieuses de voir que ce qui leur était arrivé pendant le génocide le plus grave de l'histoire se reproduisait aujourd'hui, au Darfour notamment, et que ces crimes sont passés sous silence, que personne ne parle d'eux. Beaucoup d'entre elles m'ont demandé de raconter leur histoire.
Sur les conseils de ces femmes, Quintan Anna Wixwoe se rend alors dans l'ancien camp de concentration de Dachau. Les bâtiments spéciaux, comme on les appelait à l'époque, ceux dans lesquels se trouvaient les bordels, ont été détruits et aucun panneau ne rappelle leur existence, de même qu'aucune plaque commémorative ne rend hommage aux femmes violées.
On m'a expliqué que des femmes du camp de Ravensbrück avaient été transférées ici et qu'on les avait séparées en deux groupes. Les unes étaient destinées au bordel, les autres envoyées dans une usine d'appareils photo ACFA. J'ai retrouvé ces appareils et je m'en suis servie. C'était très important pour moi pour documenter la vie de ces femmes. Tous les défauts que vous voyez sur les photos viennent de ce qu'il y avait dedans. De la saleté, du sang des champs de bataille, de la poudre à canon, des éclats.
Des photos imparfaites donc, qui représentent le ciel, des champs, des fleurs qui dessinent les contours des anciens bâtiments spéciaux, le tout avec quelques touches de couleur.
J'ai regardé les images qui représentent les femmes pendant l'Holocauste, les photos de victimes et de survivantes de la Shoah. Elles sont toutes en noir et blanc, ce qui crée une distance avec le présent. J'ai mis de la couleur pour qu'on comprenne que les choses ne changent pas, que des viols se produisent encore aujourd'hui. Pendant des mois, j'ai passé des heures assise à l'endroit où était le bordel, avec mes appareils photo et une machine à écrire qui avait été utilisée par les nazis. C'est comme ça que j'ai retranscrit les conversations que j'avais eues avec les survivantes, mais aussi mes propres émotions.
À côté de la dernière photo, on peut lire ceci. Le 11 juillet 1943, 16 prisonnières ont été violées par 94 hommes. Audrey Parmentier, à Berlin, pour la Deutsche Welle.
L'exposition Alles hat seine Zeit, chaque chose en son temps, est à voir au Musée juif de Berlin jusqu'au 9 février 2014. Et si vous ne comptez pas vous rendre dans la capitale allemande d'ici là, pas de problème, un petit clic et vous retrouverez ce reportage et le reste du magazine sur notre site internet www.dw.de/français. Et puis vous pouvez nous envoyer un mail à français@dw.de pour nous poser des questions ou nous donner votre avis sur cette émission. Avant de se quitter sur ce titre du groupe Element of Crime, un mot encore pour vous dire que l'Union chrétienne démocrate d'Angela Merkel a formellement approuvé lundi dernier l'accord de coalition négocié avec sa petite sœur bavaroise et surtout avec le Parti social-démocrate, le SPD. Le texte qui doit servir de base à l'action d'un gouvernement de grande coalition a été voté à l'unanimité par le parti de la chancelière allemande. Tout repose désormais sur l'attitude des militants du SPD. Ces derniers ont jusqu'à samedi pour répondre à la consultation lancée par leur parti. Nous en reparlerons, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris. D'ici là, portez-vous bien surtout. Tschüss.
Wann kommt der Wind, der uns weiter treibt, irgendwohin, wo keine Erinnerung bleibt, an jene Zeit, die uns glücklich sah, nüchtern und klar, zu jedem Opfer bereit. Meine Seele ist irgendwie hängen geblieben, mein Körper ist alt und verwohnt. Die Sterne wärmen den Himmel nicht mehr und eiskalt ist der Mond. Kommt der Wind, der uns weiter treibt.